Suite de la méditation sur la prière du Seigneur, le Notre Père, avec Jean-Paul II. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Être prêt à pardonner. Quand nous, les croyants, nous nous détachons de notre foyer et de notre vie de chaque jour pour aller recevoir la miséricorde du Seigneur qui nous libère de nos fautes dans les sacrements de la réconciliation, quelles sont les convictions et les sentiments que nous devons nourrir dans l'esprit? En premier lieu, nous devons être certains que notre réponse est déjà une réponse. À un regard superficiel, cette observation peut paraître étrange. On peut se demander, n'est-ce pas nous, et seulement nous, qui prenons l'initiative de demander le pardon des péchés? N'est-ce pas nous, et seulement nous, qui, ressentant le poids de nos fautes et des déviations de notre vie, et comprenant que nous avons offensé l'amour de Dieu, choisissons de nous ouvrir à la miséricorde? Certes, notre liberté est également exigée. Dieu n'impose pas son pardon à celui qui refuse de l'accepter. Toutefois, cette liberté a des racines plus profondes et des objectifs plus élevés que tout ce que notre conscience pourrait jamais comprendre. Dieu, qui est dans le Christ la vivante et suprême miséricorde, attend de nous que nous demandions les premiers à être réconciliés. Il nous attend. Nous serions jamais écartés de notre péché si Dieu ne nous avait pas déjà offert son pardon. C'est Dieu, en effet, qui s'est réconcilié le monde, affirme saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens 5, 29. Bien plus, nous n'aurions jamais décidé de nous ouvrir au pardon si Dieu, moyennant l'Esprit que le Christ nous a donné, n'avait pas déjà opéré en nous pécheurs un début de changement d'existence, ce qui est précisément désir et volonté de conversion. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu, implore saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens 5, 20. En apparence, c'est nous qui faisons le premier pas. En réalité, au début de la réforme de notre vie, il y a le Seigneur qui nous éclaire et nous sollicite. C'est lui que nous suivons. C'est à ses initiatives que nous nous adaptons. Nous devons avoir le cœur plein de reconnaissance, même avant que l'absolution de l'Église nous ait libérés de notre faute. Il est une deuxième certitude qui doit nous animer quand nous nous approchons du sacrement de la pénitence. Il nous est demandé d'accueillir un pardon qui ne se limite pas à oublier le passé, comme si on étendait dessus un voile éphémère, mais nous sommes invités à un changement radical de l'esprit, du cœur et du comportement pour devenir par le Christ justice de Dieu. Deuxième lettre aux Corinthiens 5, 21. Dieu en effet est un ami extrêmement doux, mais aussi extrêmement exigeant. Quand on le rencontre, il n'est plus permis de vivre encore comme si ce n'était pas lui qu'on a rencontré. Il veut être suivi non pas par les routes que nous avons décidé de parcourir, mais par celles qu'il nous a indiquées. On lui donne un bout d'existence et l'on se rend compte peu à peu qu'il nous la demande tout entière. Une religion uniquement consolatrice est une fable à laquelle croit uniquement celui qui n'a pas encore expérimenté la communion avec Dieu. Cette communion offre néanmoins ces gratifications extrêmement profondes, mais elle les offre au-dedans d'un effort inépuisable de conversion. En particulier, et ceci est un troisième aspect de l'approche du sacrement de la réconciliation, le Seigneur nous demande d'être prêts à notre tour à pardonner aux frères si nous voulons recevoir son pardon. L'habitude dans certaines traditions chrétiennes d'échanger les signes de la paix avec les plus proches voisins avant de s'approcher du sacrement de la miséricorde de Dieu traduit dans ce geste l'impératif évangélique. Oui, Si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos manquements. Évangile de Matthieu 6, 14 à 15. Cette remarque revêt toute son importance si on pense que le péché, même le plus secret et personnel, est toujours une blessure infligée à l'Église. Et si on pense que la concession du pardon de Dieu, tout en étant de manière spéciale et exclusive un acte réservé au seul ministre du sacrement de la pénitence, le prêtre, a toujours lieu dans le contexte d'une communauté qui aide et soutient et accueille de nouveau les pécheurs avec la prière, avec l'union à la souffrance du Christ et avec l'esprit de fraternité qui découle de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Écoutons donc l'invitation de l'apôtre Saint Paul comme si Dieu lui-même nous exhortait par sa voix. Laissons-nous réconcilier avec Dieu. Si tu te souviens d'un grief que ton frère a contre toi, c'est avec le maître du pardon que l'on mesure toute la réalité de la morale évangélique. Dans l'Ancien Testament, le peuple élu connaissait déjà ce devoir fondamental. La rancune et la colère sont aussi des abominations. Pardonne son injustice à ton prochain, alors tes péchés te seront remis. Livre de Sirach 27, 30. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur va jusqu'à identifier, en un certain sens, la relation entre Dieu et l'homme avec les rapports d'homme à homme. C'est-à-dire, si l'homme pardonne à son frère, Dieu lui accordera également son pardon. Si par contre il refuse de pardonner, Dieu aussi lui refusera son pardon. Dans la parabole des deux débiteurs, voir Matthieu, évangile de Matthieu 18, 23 à 35, Jésus insiste non seulement sur la nécessité du pardon, mais aussi sur la qualité du pardon. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Évangile de Matthieu 18, 35. Dépassant la loi de la simple justice, le Seigneur inaugure une nouvelle loi, celle de l'amour, qui non seulement sait donner, mais aussi pardonner, et créer des nouveaux rapports de solidarité entre les hommes. Dans la parabole précitée, les serviteurs impitoyables, qui demandent la remise d'une dette, mais ne l'accordent pas à son compagnon, symbolisent celui qui ne sait pas redistribuer l'amour et le pardon que le Père lui renouvelle à tout moment. Jésus nous apprend à vivre la même chose quand il nous fait répéter dans les « Notre Père, remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs. » Évangile de Matthieu 6, 12. Une autre motivation donnée par Jésus à la loi du pardon est la miséricorde. « Soyez miséricordieux parce que votre Père céleste est miséricordieux. » Évangile de Luc 6, 36. On peut bien dire que la miséricorde est l'âme du pardon. En effet, elle fait découvrir dans le frère, spécialement quand l'offense est gratuite, un malheureux plutôt qu'un méchant. Elle aide à ouvrir le cœur et rend capable de pardonner même aux adversaires et aux persécuteurs. En ceci également, Jésus lui-même a donné un exemple admirable, quand accomplissant un geste d'incomparable miséricorde, il a, du haut de la croix, de sa croix, pardonné à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Évangile de Luc 23, 34. Ceci est la raison pour laquelle il ne demande jamais trop quand il commande de pardonner toujours et du fond du cœur, sans laisser la moindre rancune dans l'esprit. Il a fait infiniment plus. Mais pour accomplir dans toute sa plénitude ce commandement du Seigneur, il faut bien se garder d'une certaine mentalité intimiste qui fait croire qu'il suffit de ne pas haïr dans le cœur sans faire aucun geste extérieur. Le pardon est parfait quand il se manifeste concrètement et conduit à la réconciliation. Ceci est le couronnement évangélique du pardon qui fait que l'on gagne vraiment un frère, qui rétablit l'unité entre les fils de Dieu et édifie la communauté chrétienne. Quand tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens d'un grief que ton frère a contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Évangile de Matthieu 5, 23 à 24. Ce que tu lieras sur la terre. J'ai hâte de souligner la tâche de remettre les péchés. Souvent, c'est précisément le devoir de se présenter au ministre du pardon qui, selon l'expérience des fidèles, comporte des difficultés importantes. Pourquoi, objecte-t-on, révéler à un homme comme moi ma situation la plus intime et aussi mes fautes les plus secrètes? Et on objecte encore, pourquoi ne pas m'adresser directement à Dieu et au Christ et devoir au contraire passer par la médiation d'un homme pour obtenir le pardon de mes péchés? Ces demandes et d'autres similaires peuvent avoir un caractère plausible à cause du pénible effort que demandent assez souvent les sacrements de la pénitence. Mais au fond, ces demandes démontrent de manière évidente que le mystère de l'Église n'est pas compris ou bien qu'il n'est pas agréé. C'est vrai, l'homme qui absout est un frère qui se confesse lui aussi, car malgré ses efforts de sanctification personnelle, il est et reste assujetti aux limites de la fragilité humaine. Toutefois, l'homme qui absout n'offre pas le pardon des fautes au nom des spécifiques qualités humaines d'intelligence ou de pénétration psychologique, ou de douceur et d'affabilité, et il n'offre pas non plus le pardon des fautes au nom de sa propre sainteté. Il est plutôt appelé à devenir de plus en plus accueillant et capable de transmettre l'espérance qui découle de sa totale appartenance au Christ. Voir lettre aux Galates 2:2, première lettre de Saint Pierre 3:15. Mais quand il lève la main pour bénir et qu'il prononce les paroles de l'absolution, il agit in persona Christi, dans la personne du Christ, non seulement comme représentant, mais aussi et surtout comme instrument humain où de manière mystérieuse et réelle est présent et agit le Seigneur Jésus lui-même, le Dieu avec nous, mort et ressuscité et vivant pour notre salut. Tout bien considéré et malgré le malaise qu'elle peut provoquer, la médiation ecclésiale est une méthode très humaine, car le Dieu qui nous libère de nos fautes ne se fige pas dans une abstraction lointaine qui à la fin deviendrait une pâle, irritante et désespérante image de nous-mêmes. Par la médiation du ministre de l'Église, le prêtre, ce Dieu se rend proche de nous dans la réalité concrète d'un cœur également pardonné. Dans cette perspective, on arrive à se demander si l'intervention de l'Église comme instrument ne devrait pas être plutôt que contestée, bien au contraire désirée, car elle répond aux aspirations les plus intimes qui se cachent au fond du cœur humain quand il se rapproche de Dieu et se laisse sauver par lui. Le ministre du sacrement de la pénitence, le prêtre, nous apparaît ainsi dans la totalité de l'Église comme une expression singulière de la logique de l'incarnation, grâce à laquelle le Verbe fait chair, nous rejoint et nous libère de nos péchés. Ce que tu lieras sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délieras sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier, a dit le Christ à Pierre. Les clés du royaume des cieux ont été confiées à Pierre et à l'Église, non pas pour qu'ils s'en servent selon leur propre arbitre ou pour manœuvrer les consciences, mais pour libérer celles-ci dans la pleine vérité de l'homme qui est le Christ, paix et miséricorde. Voir lettre aux Galates 6, 16. Confessons nos péchés. Si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute faute. Première lettre de Saint Jean 1, 9. À la lumière des paroles de l'apôtre Jean, poursuivons la redécouverte des significations que sous-entendent les gestes que, suivant la dynamique du sacrement de la pédagogie de l'Église, nous sommes appelés à accomplir quand nous nous approchons du sacrement de la confession. Fixons notre attention sur ces moments que l'ascétisme chrétien appelle normalement examen de conscience pour pouvoir reconnaître nos péchés. Il est déjà très difficile d'admettre que le péché est en soi une décision en contradiction avec le règne éthique que tout homme porte inscrit au fond de son propre être. Et il est très difficile également de reconnaître dans le choix qui prend position contre Dieu, lui, notre vraie fin, dans le Christ, la cause d'une intolérable dissociation de notre être intime, écartelé entre la nécessaire tendance vers l'absolu et notre volonté de nous bloquer au niveau des biens finis. L'homme a de la peine à admettre que la mauvaise option ruine l'harmonie qui doit régner entre lui et ses frères, entre lui et les réalités du cosmos. La difficulté augmente de manière démesurée quand il faut reconnaître le péché, non pas dans son abstraction théorique et générale, mais dans sa densité d'actes accomplis par une personne précise, ou des conditions dans lesquelles se trouve cette personne déterminée. On passe alors de la compréhension d'une doctrine à l'admission d'une expérience, qui nous concerne de manière directe et absolument personnelle, car elle est le fruit de notre responsabilité. On est appelé non pas à dire « le péché existe », mais à confesser « j'ai péché, je suis en état de péché ». C'est à cette difficulté que saint Jean fait allusion dans sa première épître, quand il nous avertit « si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous ». Première lettre de saint Jean 1, 8. Peut-être faut-il insister, reconnaître ses propres fautes ne signifie pas seulement évoquer des événements dans leur brutale nudité, les laissant émerger du sein de la mémoire des simples comportements, des gestes quasi détachés de la liberté et même de quelque manière refoulés par la conscience. Reconnaître ses fautes consiste plutôt à mettre en lumière l'intention qu'il y a derrière, et dans les divers actes que nous avons accomplis. Ce qui requiert le courage de reconnaître qu'on a joué sa propre liberté dans le mal. Ce qui impose de se confronter avec les exigences morales que Dieu a gravées dans notre fort intérieur comme impératif menant à la perfection, au moment où il nous a créés à son image et ressemblance. Voir Genèse 1, 26. Et où il nous a prédestinés à reproduire l'image de son Fils. Lettre aux Romains 8, 29. Ce qui impose en particulier de rentrer en soi-même pour laisser parler l'évidence. Nos mauvaises options ne passent pas à côté de nous. Elles n'existent pas avant nous. Elles ne nous traversent pas comme si elles étaient des incidents dans lesquels nous ne sommes pas impliqués. Nos options perverses, en tant que perverses, naissent en nous uniquement de nous. Dieu nous accorde son concours pour que nous puissions agir, mais le caractère négatif de nos actes dépend exclusivement de nous. C'est nous qui décidons de notre destin, pour Dieu ou contre Dieu, usant de la liberté que Dieu nous a confiée comme don et comme tâche. De plus, quand péniblement nous parvenons à reconnaître nos péchés, nous nous rendons compte, plus péniblement encore, que nous ne saurions nous en libérer tout seuls, exclusivement au moyen de nos propres forces. Paradoxe de cette aventure de la faute humaine, nous savons accomplir des actes que nous sommes incapables de réparer. Nous nous révoltons contre Dieu, que nous ne pouvons ensuite contraindre à nous offrir son pardon. Et ainsi, l'examen de conscience se révèle à nous non pas tellement comme un effort d'introspection psychologique ou comme un geste intimiste circoncis dans le périmètre de notre conscience abandonnée à elle-même. Il est plutôt et surtout une confrontation avec la loi morale que Dieu nous a donnée au moment de la création, que le Christ a assumée et perfectionnée dans son commandement de l'amour, et que l'Église ne cesse d'approfondir et de rendre actuel dans son enseignement. Confrontation avec le Seigneur Jésus lui-même, qui, Fils de Dieu, a voulu assumer la condition humaine pour se charger de nos péchés et le vaincre par sa mort et sa résurrection. C'est uniquement à la lumière de Dieu qui se révèle dans le Christ et qui vit dans l'Église que nous sommes capables de découvrir clairement nos fautes. Ce n'est que face au Seigneur Jésus qui offre sa vie pour nous et pour notre salut que nous réussissons à confesser nos péchés. Nous y réussissons parce que nous savons qu'ils sont déjà pardonnés si nous nous ouvrons à sa miséricorde. Nous pouvons laisser notre cœur nous faire des reproches, car nous sommes certains que Dieu est plus grand que notre cœur. Lettre de 1er de Jean 3, 20. Et qu'il connaît toutes choses, et que pour toute faute, il nous offre sa bienveillance et sa grâce. Alors émerge aussi du fond de nous-mêmes la volonté de nous amender. Pascal a observé, si tu connaissais tes péchés, tu perdrais courage. À mesure que tu les expieras, tu les connaîtras et il te sera dit, voici que tes péchés te sont remis. L'aveu des péchés. Si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, il nous pardonnera nos péchés. Première lettre de Saint Jean 1, 9. Écoutons encore une fois la consolante affirmation de Saint Jean. Nous avons peu à peu redécouvert la profonde signification des gestes que le pénitent accomplit quand il aborde et célèbre le sacrement de la réconciliation, et notamment la signification de la rencontre avec la médiation ecclésiale, le prêtre, la signification de la préparation à recevoir le pardon de Dieu, et la signification de l'examen de conscience et de la réparation. Je voudrais réfléchir sur un acte requis par le sacrement, mais qui assez fréquemment provoque un certain malaise chez les fidèles, peu attentifs à la dynamique du sacrement même et aux véritables exigences du cœur humain. Je veux dire l'aveu des péchés. Et j'insiste sur l'aveu personnel, comme j'insisterai sur l'absolution personnelle des fautes, car pour la doctrine catholique, la confession individuelle reste l'unique mode ordinaire de la pénitence sacramentelle. L'enseignement de l'Église à cet égard est bien connu. L'absolution exige, surtout quand il s'agit des péchés mortels, que le prêtre puisse comprendre et évaluer clairement la qualité et le nombre des péchés et juger en même temps s'il existe un repentir sincère. Pourquoi la requête d'un acte semblable? On pourrait répondre en invoquant des raisons d'ordre psychologique et anthropologique qui montre déjà, au-delà de toute analyse superficielle, quelques besoins de la part du pécheur de s'épancher près de quelqu'un qui écoute avec attention et confiance, pour que le pécheur lui-même puisse s'expliquer et d'une certaine manière se sentir soulagé et libéré du poids de ses propres fautes. Mais la perspective humaine ne touche pas à la racine de la conversion et surtout n'accorde pas une vie nouvelle comme la donne le sacrement. Voilà alors que l'aveu de péché acquiert sa signification la plus vraie, sa plus authentique valeur dans les sacrements de pénitence où l'homme est appelé à se découvrir pleinement comme homme qui a trahi Dieu et a besoin des miséricordes. Il importe d'affirmer très résolument que l'aveu de péché n'est pas seulement un moment de prétention à l'autolibération psychologique ou des nécessités humaines de se révéler dans son propre état de péché. L'aveu des péchés est principalement un geste qui, de quelque manière, appartient au contexte liturgique et sacramentel de la pénitence et prend part à ses caractéristiques, à sa dignité, à son efficacité. Les croyants pécheurs se présentent au sein de la communauté chrétienne devant le ministre de la réconciliation, le prêtre, qui agit au nom du Seigneur Jésus, dans la personne du Christ, et il exprime ses propres fautes pour en recevoir le pardon et être ainsi réadmis dans la fraternité de grâce. La caractéristique judicielle propre à ce rapport ne doit pas être comprise suivant les catégories de l'exercice de la justice humaine. Le prêtre confesseur doit exprimer au sein de l'Église la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ à l'adresse de tous ceux qui croient. Épître aux Romains 3, 22. une justice qui ne condamne que ceux qui ne veulent pas se laisser sauver, une justice qui est en soi pardon et miséricorde. À la lumière de ce concept fondamental, on comprend que l'aveu des fautes éclaire les pécheurs sur lui-même devant Dieu qui le pardonne. Les pécheurs, en effet, se reconnaissent étrangers et hostiles à Dieu en raison du choix fondamental qu'il a accompli contre Dieu. Mais un tel choix ne se présente pas comme un geste de liberté situé hors de l'histoire. Il se concrétise plutôt en comportements précis qui constituent effectivement les différentes fautes. Partant de ce qu'il a fait, le pécheur parvient réellement à comprendre qui il est, à se reconnaître quasi par induction. Et une telle énumération des fautes ne s'accomplit pas de manière solitaire et désespérée, mais au contraire à la manière d'un dialogue religieux dans lequel s'expriment les motifs pour lesquels Dieu, dans le Christ, ne devrait pas nous accueillir. Et voilà l'aveu de péché commis, mais avec la certitude qu'il nous accueille et nous renouvelle par sa bienveillance et par sa faculté de nous recréer. De cette manière, le pécheur non seulement se connaît quasi par induction, mais il se connaît également comme par réverbération. Quand il voit comme Dieu lui-même le voit en le Seigneur Jésus, quand il s'accepte pour que Dieu lui-même l'accepte dans le Seigneur Jésus et fasse de lui une créature nouvelle. Épître aux Galates 6:15. Les jugements divins se révèlent pour ce qu'il est, la gratuité du pardon, la miséricorde. Ainsi se répand dans la plénitude la lumière de Dieu, dont Saint Jean parle dans sa première épître. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous n'agissons pas dans la vérité. Si nous confessons nos péchés, lui, Dieu, qui est fidèle et juste, il nous remettra nos péchés et nous purifiera de toute faute. Premier épître de Saint Jean 1, 6, 9.